RCF.
Bonjour à tous. La marche est depuis des années l'activité que je préfère. Alors je suis allé tendre mon micro à des marcheurs, hommes, femmes, célèbres ou moins connus, qui eux aussi ont cette même passion pour la marche. Marche et rêve, une émission pour tous ceux que l'envie de liberté démange. Jean-Christophe Ruffin, c'est votre livre « Immortelle randonnée, Compostelle malgré moi » publié chez Guérin, qui a fait connaître au grand public votre amour de la marche. Vous êtes médecin, écrivain, académicien. Et qu'est-ce qui vous a mis en chemin, Jean-Christophe Ruffin, en 2011 pour parcourir ces 850 kilomètres sur l'un des itinéraires des chemins de Compostelle?
C'était dans des conditions très particulières que j'ai engagé cette marche. Je rentrais d'une expérience diplomatique assez lourde, puisque j'avais été ambassadeur de France dans un pays passionnant mais difficile, compliqué, disons, au Sénégal. Et quand je suis rentré en France, il m'a fallu reprendre une vie, j'allais dire, normale, c'est-à-dire plus les heures de la République, tout le confort très artificiel d'ailleurs de la vie diplomatique. Et donc, finalement, tout ça pouvait apparaître comme une privation, plus de cuisiniers, plus de chauffeurs.
Plus de personnes qui vous appelaient Excellence.
Voilà, exactement. Et j'ai voulu convertir cette privation, au contraire, en bonheur, c'est-à-dire la pousser à l'extrême. Et il n'y a rien de tel, à mes yeux, qu'une grande, longue marche pour vous conduire à une forme de dépouillement, parce que et vous ramener à l'essentiel, en fait. Voilà. Donc, c'était d'ailleurs pas nécessairement sur le chemin de Compostelle que je comptais marcher au départ. Je voulais, mon premier projet, ça avait été de faire la traversée des Pyrénées, vous savez, qui se fait soit par un sentier de grande randonnée, il y en a un du côté espagnol, un du côté français, soit ce qu'on appelle la grande traversée des Pyrénées par les cols et les sommets, qui est plus montagnarde, si je puis dire. Voilà. Donc j'avais ce projet, puis comme ce projet de chemin coupait les chemins de Compostelle, je m'y suis intéressé, et Compostelle porte une espèce de poids historique, de tradition, de spiritualité qui est tellement forte.
Vous avez été aimanté quelque part.
Voilà, exactement.
Aimanté, une forme d'aimantation.
Oui, tout à fait.
Vous écrivez dans votre livre que la marche, ça a été une purge intellectuelle. J'ai bien aimé cette expression. En quoi ça permet de se purger intellectuellement la marche?
Beaucoup de gens pensent que la marche était favorable à la réflexion. Ça peut être vrai sur des courtes distances. Quand vous allez, c'est le général de Gaulle qui faisait le tour de son jardin à la Boisserie et qui, là, donc il concevait ses discours. Bon, ça, c'est la marche, j'allais dire, dans dimension réduite, en petit format.
Voilà. Un peu comme les philosophes grecs qui marchaient dans leur jardin pour penser.
Etc., oui. Mais la marche prolongée, c'est-à-dire celle qui vous absorbe complètement pendant plusieurs heures de la journée, 5, 6, 7, 8 heures parfois.
Et répétée tous les jours.
Et qui tous les jours, se répète. Alors là, c'est tout à fait différent parce qu'elle produit un effet vraiment contraire, c'est-à-dire qu'elle élimine toute la pensée, parasite ou pas, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, construite, celle qu'on veut poursuivre. Vous savez, on tient une idée, on veut la poursuivre. Là, la marche, finalement, élimine ça parce qu'elle vide, en quelque sorte, le cerveau. Et alors, après, il ne se passe pas rien. On n'est pas décérébré pour autant. Mais la réflexion est différente parce que, d'abord, elle est beaucoup plus nourrie des perceptions qu'on a autour de soi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de porosité, de perméabilité à l'environnement qui fait que c'est cet environnement, c'est le fait qu'on soit dans une plaine ou dans une montagne, qu'on soit en train de monter ou de descendre, qu'on soit dans le froid ou dans le chaud, sous la pluie ou au soleil, c'est ça qui va finalement, en quelque sorte, imprégner l'esprit et faire naître une rêverie qui est singulière.
Ça veut dire qu'on développe une perception plus fine de notre environnement quand on marche,
oui, c'est-à-dire
lorsqu'on est dans notre vie quotidienne.
Oui, parce que dans la vie quotidienne, on est toujours protégé par des bornes, par alors ça peut être une carrosserie de voiture, ça peut être les murs d'une maison, ça peut être justement l'enceinte d'un jardin, si vous voulez. Alors que
ou des protections sociales.
Et les protections sociales.
Une image sociale que l'on veut donner.
Oui, parce
aussi.
Que de toute façon, quand vous êtes dans un milieu clos, vous pouvez déployer, et vous devez d'une certaine manière déployer un personnage, puisque c'est celui qui va en quelque sorte vous donner votre place dans ce monde social.
Hein. Et donc, dans cette comédie humaine, dirait Balzac.
Comédie humaine, donc vous avez tous les attributs, tout l'attirail d'un personnage qu'on appelle une personnalité, mais enfin c'est plutôt un personnage. Et alors là, à l'extrême, évidemment, la vie diplomatique, c'est ça, puissance 10, puisque vous incarnez non seulement qui vous êtes, mais un pays, etc. Donc moi, j'avais vraiment...
Vous étiez en représentation en permanence,
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, tout à coup, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que... Pas tout de suite d'ailleurs, mais au fil des jours qui passent, ces barrières-là tombent. Et il y a donc une sorte de vulnérabilité, mais dans le sens positif, si vous voulez, dans le sens où ce qui se déroule autour de vous peut entrer en vous d'une certaine façon. Et de la même façon, vous-même, vous pouvez entrer en communication, voire en communion avec les gens que vous rencontrez, de façon beaucoup plus simple. Parce que d'abord, ils ne vous demandent pas qui vous êtes. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, cette espèce de barrière de...
Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la
oui,
vie
bonjour docteur, ouais, bonjour monsieur l'ambassadeur, bonjour monsieur le directeur. Donc, ça c'est fini. Et il reste quoi? Il reste... ce que vous êtes, ce que vous avez fait, tout ça disparaît.
Et le fait de souffrir de la même manière.
Voilà.
C'est important, ça.
C'est-à-dire qu'il reste une forme de communion dans ce qu'il faut bien appeler quand même une épreuve, parce que c'est vrai que ces marches longues, ces marches...
Un mois et demi, deux mois.
Ça, ouais. Oui. Elles déracinent, si vous voulez, les personnes, elles les placent dans une forme de vulnérabilité. C'est quand même une épreuve, quoi. Qu'on le veuille ou non, même si c'est vécu agréablement. C'est une épreuve de ne plus avoir ses références, de ne plus avoir ses protections, de ne plus avoir tous ces faux-semblants qui nous entourent. Et donc, on partage ça avec les autres. Et du coup, c'est vraiment qui vous êtes, de chaque côté, qui est là, c'est tout, rien d'autre.
Jean-Christophe Ruffin, certains vont se demander finalement à quoi ça sert cette démarche-là, cette démarche d'humilité, où vous vous mettez en situation de fragilité, en situation d'une certaine manière de pauvreté. Vous, vous sortiez des ors de la République, des honneurs, et vous vous retrouvez comme n'importe qui, votre sac sur le dos, vos chaussures, vos chaussettes qui puent au bout d'un moment, dormir dans des petits refuges pas chers ou dormir sous votre tente. À quoi ça sert de faire cette démarche-là de dépouillement et d'humilité?
Justement, je pense que ça, au sens utilitariste, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que, au bout du compte, le petit diplôme là qu'on vous remet quand vous arrivez à Compostelle, je vais dire, tout le monde s'en fiche. C'est pas
le but. C'est la pas Compostelle.
Non, oui, ça n'a pas. C'est un gris-gris. Mais moi, je suis assez habitué à ça parce que comme je pratique pas mal la montagne, c'est un peu comme la notion de sommet, si vous voulez. Notion de sommet, elle est finalement, au fond, abstraite. Combien de temps on passe sur un sommet? Vous voyez, vous avez passé des heures pour arriver sur un petit bout de quelques mètres carrés d'un truc sur lequel vous allez rester 10 minutes.
Parce qu'il fait trop froid, parce qu'il y a du vent, et puis il faut vite redescendre.
Voilà, vous allez manger un bout de saucisson et puis descendre. Bon. Donc ce sommet, il est à la fois le but, et en même temps, il n'est pas le but. Le but, c'est vraiment tout ce qui se passe pour y parvenir.
Le but, en randonnée, c'est le chemin. La même chose.
Oui, et là, c'est la même chose. Alors, c'est particulièrement vrai pour le chemin de Compostelle, parce qu'il est orienté. C'est pas un chemin Bon, certains le font dans l'autre sens. Il y a toujours des vicelards qui veulent corser la difficulté. Parce que comme il est balisé dans un seul sens, dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Mais disons que c'est un chemin qu'on pratique vers quelque chose, vers
Compostelle. On est orienté vers Compostelle.
Il est orienté, voilà.
Mais on est orienté
vers l'Occident.
Vers l'Occident.
Voilà. Mériter cette orientation n'est là que pour colorer, si je puis dire, le chemin. Ça n'est pas pour le couronner, c'est-à-dire que il se passe rien. En tout cas, là, je parle de mon expérience personnelle. Peut-être que certains ont une sorte de révélation en arrivant à Compostelle. Mais enfin, Compostelle est devenu tellement, mercantile. Enfin, les gens, ils y vont en avion, ils achètent des souvenirs dans
surtout
les boutiques.
Surtout quand on arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà.
Quoi. C'est un peu les marchands dans le
les
temple.
Les marchands du temple.
Oui. Donc, en fait, ça n'est... Si vous voulez, à la fois ce but est important parce qu'il vous appelle quelque part, bon, et en même temps, ça n'est pas lui qui constitue l'essentiel. Voilà. Donc l'essentiel, c'est le chemin. Donc si vous reprenez votre question, ça ne sert à rien. Voilà. Mais tant mieux, parce que dans le restant de notre existence, nous ne faisons que des choses qui sont théoriquement utiles, qui servent à quelque chose. Et cette utilité mise bout à bout aboutit souvent à une impression justement d'absence de sens. C'est la plupart d'entre nous, on enchaîne des choses utiles tout au long d'une journée et ça ne retire pas l'impression qu'on peut avoir de temps en temps qu'on ne sait pas où on va, qu'on ne sait pas pourquoi on fait tout ça. Voilà. Alors que le chemin, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'utilité, ça c'est certain, personne ne vous demande de faire ça, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Et pourtant, il vous emplit de l'impression d'être dans l'essentiel. C'est l'antithèse de la vie courante.
Jean-Christophe Ruffin, on sait votre amour de la montagne. Vous avez publié récemment un livre où vous exprimez tout votre amour et votre lien, votre attachement avec la montagne, l'alpinisme, l'escalade. Quelle différence faites-vous entre la marche, où vous êtes dans la nature, et on y reviendra, et puis la montagne, où vous êtes aussi dans la nature, mais dans une autre approche?
Ben, je pense que dans la montagne, il y a un côté peut-être initiatique qu'il n'y a pas dans la marche. C'est-à-dire que la montagne requiert, quand je parle de la montagne, c'est l'alpinisme, une technique particulière. C'est-à-dire que arrive un moment où au pied d'une paroi, si vous voulez, il faut convoquer un savoir. Et un matériel aussi, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une corde, besoin d'un baudrier, besoin de piton, même s'ils sont en place maintenant, mais il y a besoin de mousquetons, etc. Enfin, toute chose que...
Pour maîtriser une technique.
Cette technique, elle est un peu un prolongement quand même de la vie technologique d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça reste un sport... organisé, avec sa dimension même commerciale, vous avez des rayons consacrés à ça dans les magasins de sport, etc. Donc, puis c'est bref en général. Alors, ça peut être long, il y a des gens qui pratiquent ça, je sais pas, qui font des ascensions très longues, qui vont rester 15 jours dans une paroi. Bon, mais moi je parle plutôt de l'ascension qu'on va faire dans la journée.
Dans la journée, oui.
C'est, disons, une activité qui peut se comparer, je sais pas moi, au vélo, au sport automobile, au ski, enfin voilà, c'est une activité technique qui est moins coupée, si je puis dire, de notre vie quotidienne. C'en est même, de certaine façon, un prolongement, puisque c'est...
Alors, il faut un équipement, il faut...
Voilà, c'est ça.
Il faut de la technique, alors que dans la marche...
Marche, c'est vraiment une paire de chaussures, et même certains s'en passent, mais je veux dire que, voilà, le dépouillement, il peut être total, pratiquement. Donc, c'est pas la même chose. Mais en même temps, il y a des choses communes, et notamment les épreuves physiques liées justement au froid, au chaud, à la faim, à la soif, etc. Et il y a quelque chose de commun, c'est-à-dire que on convoque, les mêmes qualités. Il faut être une forme de résistance, une forme de volonté, etc. Bon, tout ça est commun. Donc il y a des points communs, mais ça n'est pas la même chose. Et alors, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que d'un point de vue même musculaire, même physique, on a beau, par exemple, pratiquer beaucoup l'alpinisme, quand on pratique ces marches longues comme ça, on a mal partout. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça convoque d'autres muscles, je ne sais pas, d'autres mouvements, enfin, dont on n'a pas l'habitude.
Donc c'est un autre rapport au corps aussi.
C'est un autre rapport au corps. Je pense que si vous voulez, la marche prolongée comme ça, dans des conditions d'autonomie et de un petit peu d'isolement en fait, ça ne se compare au fond à rien. Voilà, ça peut emprunter des traits à telle ou telle activité, mais ce dépouillement, je crois qu'on ne le trouve nulle part ailleurs.
Marché rêve, Thierry Lyonnais.
Jean-Christophe Ruffin, j'aimerais qu'on parle du rapport au temps dans la marche, et notamment dans la marche longue. Hein. Je ne parle pas la marche sur la journée, je parle sur, comme vous l'avez pratiqué, sur un mois, deux mois pour certains. Vous écrivez dans votre livre « Le chemin est une alchimie du temps sur l'âme ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ben parce qu'en fait, le temps vous modifie profondément. C'est-à-dire que quand vous commencez à marcher, vous avez des étapes à franchir. La première étant une étape du corps, simplement. Habituez votre corps à ça. Parce qu'il y a tout un tas de petits inconvénients, les ampoules et autres, crampes, machin, ce que vous voulez.
Mal aux épaules.
Voilà. Il faut d'abord. Le temps façonne d'abord votre corps. Mais après, au-delà de façonner votre corps, il s'attaque, si j'ose dire, à votre âme, à votre esprit profondément. Et donc, il y a une sorte de... D'ailleurs, les deux sont liés, parce que ce que le temps fait sur le corps, c'est justement de le faire disparaître, c'est-à-dire de vous permettre de l'utiliser sans vous en préoccuper. Parce qu'au début, vous êtes quand même très centré sur tous les petits malheurs qui vous arrivent, les petits trucs qui frottent, qui font mal, etc. Donc le corps crie, en quelque sorte. Il est là et il vous empêche de vous entendre vous-même, enfin, profondément. Donc la première action du temps, c'est de faire disparaître ces soucis du corps. On est habitué à la marche, on est habitué. Et quand on a ce silence du corps, si je puis dire, il y a d'autres choses qui viennent et qui probablement, en effet, travaillent sur l'esprit et travaillent sur l'âme, au sens où je pense que c'est, au bout d'un certain temps, une manière d'atteindre une forme de spiritualité qui n'est pas, à mes yeux, une révélation. C'est-à-dire que c'est pas... J'avais écrit dans le livre, c'est que le chemin de Compostelle, c'est pas le chemin de Damas. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous n'êtes pas forcément foudroyé par une sorte de
révélation
ou de vérité qui certitude. S'impose à vous. Ça peut arriver, certainement, mais en tout cas, pour moi, ça n'est pas l'essence de cette activité, de ce chemin.
Mais pourtant, vous parlerez de spiritualité quand
même.
Oui,
parce qu'il y a un dépouillement qui s'est fait, qui vous rend vulnérable, mais dans le bon sens du terme, à ce qui s'éveille en vous et autour de vous. Alors, autour de vous, on en a parlé, mais en vous aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'émotion dans lesquels vous êtes capable d'entendre des voix intérieures. C'est un peu, il s'agit pas de le faire au sens strict, mais oui, une sorte de, d'écouter ce qui se passe en vous, quoi. Ce qui se passe en vous, mais pas seulement intellectuellement, ce qui se passe en vous en termes d'émotion, en termes d'appel, de sensibilité. Alors, au fond, tout ça ne vous transforme pas forcément, c'est-à-dire tout dépend de vos croyances, tout dépend de vos croyances religieuses, que vous avez la foi ou pas, etc., mais ça accroît la puissance de ça, c'est-à-dire que si vous êtes croyant, vous l'êtes encore plus, si vous cherchez quelque chose, vous êtes encore plus en quête de ça. Je pense que voilà.
D'ailleurs, on a l'expression « être en chemin », souvent, spirituellement. C'est une quête, c'est un chemin.
Exactement. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est comme une peau à vif, si vous voulez, qui perçoit le toucher plus fort qu'une peau normale, si j'ose dire. C'est une espèce de... Vous êtes un peu à vif, quoi, voilà.
Et vous pensez que par la marche, on le vit d'une manière particulière ?
Oui, parce que je pense que la marche est longtemps, marcher longtemps, c'est un petit peu le seul moyen, à mon sens, de se priver, justement, de tous les bruits parasites, si je puis dire, qui encombre l'esprit, qui encombre la vie, tout simplement. C'est, il y a une sorte de paix, voilà, si on devait trouver le mot, c'est une paix, intérieure, une paix extérieure, qui est liée au fait qu'on a laissé derrière soi toutes les perturbations de la vie, on les a oubliées, on ne sait plus, les impôts, les machins, on s'en fout. Et puis, il y a une paix intérieure, au sens où on est, il y a cette espèce de liberté, et de temps qui vous est donné d'écouter votre propre conscience.
Mais quand on marche, on en fait tous l'expérience, le mental est toujours là, les pensées sont toujours là.
Ben,
donc est-ce qu'on n'est pas encore avec une acuité plus grande sur tout ce mental qui s'agite en nous?
Non, alors
au contraire, ça devrait, est-ce qu'il s'apaise?
Oui, moi je trouve qu'il s'apaise. Je pense qu'au début, moi je me souviens les premières semaines, les premiers jours, je m'accrochais à des pensées. Je me disais ça, tiens, voilà, un truc auquel je voulais penser depuis longtemps. Là, je le tiens. Voilà, puis tout ça, au bout d'un moment, au fond, on oublie, on s'en éloigne, et puis les choses. Non, je crois que tout ce mouvement parasite, finalement, de la pensée qu'on peut avoir, je ne dis pas qu'elle disparaît, mais en tout cas, elle s'apaise. Oui.
Jean-Christophe Ruffin, le fait de marcher seul, parce que vous avez marché une grande partie du temps seul, une petite partie avec votre épouse à l'époque.
Oui.
C'est important de marcher seul. Ça apporte quelque chose de particulier par rapport à marcher à deux, trois, quatre.
Moi, je trouve, parce que je compare ça, si vous voulez, aux classes de langue. Vous savez, quand on envoie les enfants étudier les langues à l'étranger, ou les envoyer en Angleterre ou en Espagne, bon, s'ils partent avec tous leurs copains, eh ben, ils continuent de parler français. C'est-à-dire que s'ils partent tout seuls, ben là, ils sont bien obligés
de s'immerger,
de se plonger. Mmh. Et je pense que le fait d'être seul, si vous voulez, vous oblige quand même à une ouverture. Moi, on le voit bien sur les chemins. Hein, quand vous croisez des groupes, les gens se parlent entre eux, quoi. Ils se parlent entre eux. Ils sont beaucoup moins réceptifs. Un groupe, je dis pas que c'est hostile, mais aborder un groupe, par exemple, quand vous êtes seul, c'est pas simple parce qu'ils sont entre eux, quoi. Mmh. Ils sont entre eux. Ils sont dans leur petite bulle. Et
donc moins de possibilités de rencontres.
Voilà. En fait, et je pense que justement ce bavardage, si vous voulez, qui est sympathique, hein, j'aime bien ça aussi. Mais ce bavardage, il prend la place du silence, en fait. Hein, en tout cas, l'expérience que j'avais faite autour de ça m'avait montré que c'était pas du tout pareil quand on est accompagné, ou quand on accompagne quelqu'un, que quand on est seul. Vraiment, c'est très différent.
Christophe Ruffin, on entend parfois dans la bouche de marcheurs cette expression « la marche permet de faire le point sur sa vie ». Beaucoup de gens d'ailleurs partent faire des grandes marches à la retraite parce qu'il faut du temps pour faire ces longs marches. Et ils disent « moi je pars pour faire le point sur ma vie ». C'est une réalité, on fait le point sur sa vie quand on marche. Vous avez fait le point un peu sur votre vie en marchant pendant un mois ?
Pas tellement. Moi, je trouve que ça. Enfin, tu vois, il y a une grande différence entre ce qu'on prévoit de faire et ce qu'on fait. C'est-à-dire que, en effet, en général, on prévoit de faire ça en se disant je vais résoudre tel ou tel problème, je vais enfin connaître la vérité de ce que je veux, de ce que j'attends, de ce que j'espère, de ce qui m'attend peut-être dans la vie, etc. Moi, je trouve que ça, c'est, disons, ce qu'on met dans son paquetage, et puis très vite, on est conduit à autre chose. Mmh. Alors, est-ce que c'est un point sur la vie ? J'en sais rien. De façon, je pense que pour faire un point sur sa vie, le mieux, c'est de l'oublier. C'est-à-dire d'oublier un peu toutes les. C'est ça qu'on entend souvent en disant je vais faire le point. Ça veut dire je vais résoudre quelques contradictions, quelques problèmes, enfin trouver.
Il y a encore une dimension utilitaire, finalement,
utilitaire,
de la marche.
Utilitaire, exactement. Mmh. Alors que Compostelle vous fait faire un point. Beaucoup plus vu de plus haut, si vous voulez, hein, vu d'un, comme d'un satellite, si vous voulez, vous oubliez. Donc vous ne allez pas forcément résoudre les petits problèmes de votre vie, vous n'allez pas forcément savoir s'il faut que vous soyez locataire ou propriétaire, campagnard ou citadin, c'est pas forcément ça, mais ça va vous conduire à une mise en question plus profonde et peut-être plus abstraite d'ailleurs, hein, moins communicable en fait, hein, parce que c'est très difficile. Si vous voulez, les gens ont souvent un discours très très précis sur ce chemin avant de partir, et assez flou en rentrant, parce qu'au fond, ce qu'ils ont vécu n'est pas facile à communiquer, et les transformations qu'ils ont subies, eh bien, elles sont très difficiles à expliciter, parce que justement, elles ne sont pas de l'ordre du pratique, quoi.
C'est pour ça que vous n'aviez pas eu envie d'écrire au début.
Non, moi je voulais pas du tout écrire. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai écrit un livre qui était très descriptif et assez peu personnel au sens où voilà, j'ai pas
introspectif, parlé. On va dire.
Peu introspectif. Ouais.
Voilà. Alors moi, je vais vous poser une question un peu introspective pour finir, Jean-Christophe Ruffin. Qu'est-ce que vous avez retiré d'essentiel dans cette marche que vous avez vécue dans une situation particulière, dans un moment de votre vie particulier, mais qui vous habite encore aujourd'hui?
C'est un peu comme le vaccin anti-Covid ou autre, mais je pense qu'il faut des rappels périodiquement. Alors est-ce que moi je dissocierais, disons, ce que j'ai pu vivre sur le moment et puis ce qui reste aujourd'hui, parce que ça fait quand même un moment, et je pense qu'il faudrait que je me fasse une piqûre de rappel. Mais sur le moment, ça a été une sorte de... Non pas de révélation, mais en tout cas de retour aux sources, c'est-à-dire plus harmonieuse. J'avais parlé des conditions dans lesquelles j'avais fait ce chemin. Bon, j'étais en retour d'une vie très différente, très extravertie, parce que en représentation, etc. Et je pense que le chemin m'a aidé à entrer dans une autre phase de vie, qui effectivement dure encore aujourd'hui, même si j'ai besoin d'un piqueur de rappel, mais dans laquelle finalement j'ai largué un petit peu derrière moi toutes ces ambitions matérielles, sociales, machin, etc., pour entrer dans une phase assez créative, assez... Voilà, ça m'a permis de faire cette transition profondément.
De recentrer davantage sur ce que vous aimez fondamentalement.
Exactement. Et ce qui me constitue plus, alors qui n'est pas figé d'ailleurs, parce que écrire des livres, ça veut dire à chaque fois se remettre en question, etc. Il ne s'agit pas de, ça veut pas dire s'arrêter, ça veut dire retourner vers l'essentiel pour soi. Alors l'essentiel pour chacun est différent.
Mais l'essentiel pour vous.
Pour moi, c'était justement cette forme de créativité et de liberté intérieure qui me permet d'accueillir justement. Ce qu'on appelle l'inspiration, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas qui permet de garder cette créativité.
Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin, je vous souhaite une piqûre de rappel bientôt. Bonne marche dans ce cas-là.
Merci beaucoup.